Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série des Mobility Talks. Ce mois-ci, on va s'intéresser à l'infrastructure de recharge du véhicule électrique et de ses innovations, surtout de ses innovations. Comme la mobilité en général, le segment de la recharge du véhicule électrique, c'est assez passionnant parce que ça demande à beaucoup d'acteurs qui ont des statuts et des enjeux différents de se mettre autour de la table. Et on voit que c'est vraiment une industrie qui est en plein essor parce que en fait, il y a une capacité à ce que les nouveaux entrants voilà, prennent une belle place en fait sur ce segment de marché, que ce soit d'ailleurs des acteurs historiques ou des nouveaux entrants. Aujourd'hui, pour débuter le bal et puis pour lancer le bal et puis pour dresser un premier panorama, je suis ravi d'accueillir Manon Laverne, la CEO de Viluzo. Bonjour Manon.
Bonjour Vincent.
Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation à participer à ces Mobility Talks. Vous le savez, qui sont proposés par le Mobility Club, qui est un club privé pour les grands corporates de la mobilité et de la Smart City, pour les corporates qui souhaitent être mieux connectés à l'écosystème startup et comprendre et décrypter les grandes tendances de la mobilité. Vous le savez aussi, vous êtes des habitués maintenant de ces talks. N'hésitez pas à utiliser l'onglet de chat pour vous présenter, et il y a une section dédiée pour vos questions. On en prendra quelques-unes à la fin de notre échange avec Manon. Manon, avant d'attaquer le vif du sujet, je te propose de te présenter et de nous en dire un peu plus sur ce que tu fais.
Ok, très bien. Alors bonjour à tous. Donc je suis Manon, je suis fondatrice de Viluzo et chez Viluzo on se définit comme un acteur de la mobilité verte et partagée. Voilà, donc, rapidement pour vous faire un petit topo. Voilà.
Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus, vraiment le Viluzo, finalement, ce que vous développez derrière l'activité mobilité verte et partagée?
Oui, alors mobilité verte, aujourd'hui on propose des scooters électriques, pour l'instant en B2C, qui sont vendus uniquement chez Fnac et Bête d'Arty, qui sont nos partenaires, et notre site internet viluzo.com. Et dans un deuxième temps, on est en train de développer la partie B2B, qui serait plutôt du free floating, dans des villes qui sont un peu plus petites, de taille 100 000 à 500 000 habitants, dans l'ensemble de la France. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie qui est en cours de développement.
Ok, c'est presque une transition parfaite pour la première question. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'infrastructure de recharge en général, mais la première, voilà, elle nous invite à nous interroger sur les différences en fait dans les grandes villes et les zones rurales. Donc, quelles sont les différences en fait de la recharge du véhicule électrique entre les zones urbaines denses et les zones rurales?
Alors, il faut vraiment savoir que recharger son véhicule dans ces deux endroits, c'est vraiment très différent et surtout, il y a des avantages et des inconvénients, on pourrait dire, de chaque côté. Par exemple, en prenant plutôt les zones rurales, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les zones rurales, donc, si c'est à votre domicile, vous avez votre propre borne de recharge. On dit borne, mais en général, c'est plutôt un ensemble, c'est simplement un fil, un gros fil que vous allez mettre à charger à votre voiture. Et ça, vous pouvez le partager déjà avec vos voisins et vous avez aussi également des aides financières de l'État pour installer ces bornes à votre domicile. Donc là-dessus, le temps de recharge va être peut-être un petit peu plus long comparé à par exemple, la recharge en ville, mais vous êtes sûr, par exemple, d'avoir la bonne prise pour recharger votre véhicule. Et surtout, il faut également savoir que faut s'imaginer que les bornes de recharge, c'est un peu comme les portables quand vous aviez votre chargeur et votre portable il y a, on va dire, quelques années. Chaque typologie de prise de véhicule est différente. Donc, du coup, il faut toujours avoir le bon fil pour pouvoir le brancher. Vous êtes sûr au moins d'avoir de la place, qui est contrairement en ville, ça peut être plus compliqué au niveau de la place quand vous voulez recharger votre véhicule. Mais par contre, en revanche, ça va être moins cher qu'en ville, par exemple en zone rurale, étant donné que c'est chez vous, à votre domicile, c'est quand même moins cher que si vous prenez un abonnement chez un acteur privé en ville. Donc en ville, on peut dire par contre que c'est plus rapide parce que souvent vous avez des fast chargers. Donc c'est ce genre de recharges qui vont durer une demi-heure et qui vont recharger très vite votre batterie. Mais par contre, en revanche, ce que je vous disais, ça va être peut-être plus cher étant donné que vous passez par des acteurs privés. Et il y a également l'histoire de place de parking et il faut que la place soit disponible pour que vous puissiez faire recharger votre véhicule. Voilà un petit peu les plus et les moins de chaque côté.
Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a de belles différences et c'est des cas d'usage et des possibilités un petit peu différentes. Et voilà, peut-être qu'il y aura un déploiement aussi nouveau qui va arriver dans les zones rurales. Et peut-être si on prend un peu plus de hauteur, et c'est une question volontairement ouverte, quel bilan est-ce qu'on peut faire finalement sur la recharge électrique en 2021? Ce qu'il y a derrière cette question, c'est on a beaucoup parlé voilà du boom de l'électrique, voilà on voit que tous les spots publicitaires des constructeurs auto, ils sont complètement remplacés ou presque par du véhicule électrique, la voiture, la voiture, la voiture, mais quid de l'infrastructure de recharge? Voilà, où est-ce qu'on en est? Si tu peux nous en dire un peu plus.
Oui, alors en 2021, il y a eu beaucoup d'avancées, même si elles n'ont pas du tout été atteintes. Si je ne me trompe pas, l'État avait dit que à la clôture de l'année 2021, donc 31 décembre, il y aurait 100 000 bornes de recharge installées dans l'ensemble de la France. Bon, ce qui n'a pas du tout été le cas, parce qu'aujourd'hui, fin 2021, il n'y en avait que 54 000 dans l'ensemble de la France. Donc, on n'a pas encore atteint quand même l'objectif qui s'était fixé. Et surtout, c'est qu'en fait, les ventes de voitures électriques et de véhicules augmentent et même explosent aujourd'hui. Alors, pour différentes raisons, déjà parce qu'il y a des concessionnaires qui se tournent vraiment vers l'électrique, il y a des aides de l'État au niveau financier. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui poussent les utilisateurs à se tourner vers l'électrique. Et par contre, en revanche, c'est souvent ce qu'on reproche, c'est que il n'y a pas assez de bornes derrière pour pouvoir recharger l'ensemble des véhicules, ce qui peut être un peu déstabilisant pour un utilisateur qui veut se tourner vers l'électrique, qui fait l'effort et en fin de compte, derrière, il ne peut pas recharger son véhicule correctement. Et c'est ce que je disais au début, surtout dans les grandes villes. Pourtant, en Europe, on est un des pays où il y a le plus de bornes de recharge avec l'Allemagne et les Pays-Bas, mais bon, apparemment, c'est toujours pas suffisant. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'acteurs. En 2021, je crois que le cabinet Ernst & Young avait compté plus d'une vingtaine d'acteurs dans tout ce qui était bornes de recharge. Donc, vous vous doutez, c'est des anciens acteurs qui étaient dans le milieu pétrolier, qui se tournent vers l'électrique. Donc, il y a Shell, il y a Total, enfin, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et on pourrait dire que 2021 aussi a été marqué par une histoire qui avait commencé en 2019, qui était l'histoire Corridor. Et donc, c'était une filiale de. C'est NVIDIA de EDF qui avait lancé plusieurs bornes électriques dans l'ensemble de la France. Et suite à divers problèmes, à plus de 80% des bornes avaient été fermées. Donc là, Total a repris plus de 80% des bornes, les a un peu remises à neuf, pardon, et du coup a relancé ses bornes électriques. Donc déjà, ça a fait un peu plus de bornes dans l'ensemble de la France. Donc voilà, donc là, ce sujet, il est clos. Ça a été toute une histoire dans le milieu des bornes électriques. Donc voilà. Mais en 2021, il y a encore du retard. Et bien sûr, les objectifs pour 2022, on verra bien si l'État arrive à combler ce manque de bornes.
C'est vrai, tu as parlé des acteurs, des énergéticiens, des acteurs historiques du pétrole en fait, mais il y a aussi des nouveaux entrants. Enfin, voilà, on pense aux constructeurs aussi qui peuvent aller sur ce sujet, des startups qui se lancent là-dessus. Voilà, comment est-ce que tu vois peut-être l'évolution, enfin, ce qui s'est passé en 2021, tu vois, sur la partie de nouveaux entrants. Voilà, si tu as suivi des nouveaux acteurs autres que les historiques, je dirais, de l'alimentation, de la fourniture d'énergie pour les voitures.
Oui, en fait, il y a eu beaucoup d'acteurs. En fait, il y a l'IoT qui rentre en jeu aujourd'hui dans tout ce qui est innovation dans les bornes de recharge. Il y a plusieurs acteurs. Il y a par exemple, il y a la start-up lyonnaise là, qui a commencé à bien démarrer. Eux, ils s'appellent, je ne sais plus comment ils s'appellent. Ils s'appellent Mob Energy, je crois. Et Mob Energy a mis en place en fait une sorte de robot. Donc en fait, ça va être la borne de recharge qui va venir auprès du véhicule pour la recharger, c'est plus le véhicule qui va à la borne pour se faire recharger. Donc j'explique. Ça va être un robot sous forme de, c'est un robot autonome en fait qui va se déplacer dans des lieux, donc plutôt des parkings ou des parkings souterrains, et qui va aller jusqu'à la voiture et qui, de façon autonome, va se brancher à la voiture, la recharger et une fois que c'est terminé, va se diriger vers un autre véhicule. Donc il y a plus ce problème d'emplacement et puis surtout ça va pouvoir permettre d'optimiser l'espace dans les parkings et pouvoir recharger le véhicule. Là, il y a plusieurs acteurs hein, qui se placent sur ce jeu-là. Il y a également, bon, vous vous doutez, les Chinois qui sont très présents dans tout ce qui est électrique aujourd'hui, dont les bornes électriques. Donc, eux, ils ont développé Moshi, c'est Indigène, c'est une énorme entreprise chinoise. Et pareil, c'est aussi une sous-forme de. C'est un robot, c'est de l'IoT, pareil, qui va jusqu'au véhicule pour le faire recharger. Donc l'IoT va quand même jouer un jeu assez important dans tout ce qui est le développement des bornes de recharge, optimisation de l'espace. Mais il y a également la partie où les recharges, les batteries elles-mêmes vont s'améliorer. Alors il y a plusieurs choses. Il y a la partie innovation et recherche. En France, on a eu, surtout en Europe, on a eu beaucoup de retard au niveau de la recherche et des batteries et de la construction des batteries au lithium. Les Chinois ont pris pas mal le devant là-dessus. L'Europe essaie de rattraper son retard. On peut voir entre l'Allemagne et la France qu'il y a eu un partenariat. Angela Merkel, quand elle était encore chancelière, a mis en place avec Macron toute une usine en Charente pour essayer de pousser l'innovation et la construction des batteries au lithium. Il y a également d'autres innovations comme des batteries au sodium qui feraient peut-être qui pourraient être utilisées. Il y a tout ce qui est hydrogène, etc. Donc, il y a aussi des innovations au niveau de la batterie elle-même. Et puis aussi l'amélioration au niveau de la recharge, donc des recharges plus rapides, l'uniformisation des prises, comme j'en parlais au début, c'est un peu problématique. Ça va devenir comme l'informatique, il faut vraiment tout uniformiser pour que ce soit plus simple pour qu'un utilisateur puisse recharger son véhicule. Donc voilà, il y a plusieurs innovations, plutôt petites, d'autres grandes, mais voilà, on est sur le bon chemin.
Ça marche. Ouais, c'est vrai qu'on a bien abordé déjà la dernière question sur cette partie d'innovation, mais peut-être pour prolonger un petit peu la discussion, on parlait beaucoup de l'aspect produit finalement, très, très tech, etc. Quid de l'expérience utilisateur ? Voilà, il y a un sujet aussi de pédagogie, d'accompagnement en fait, d'utilisateurs pour bien utiliser les bornes électriques, de recharge électrique et même le véhicule électrique. Sincèrement, il faut changer de logiciel un peu quand on passe du thermique à l'électrique. C'est une autre façon de voir les choses. Donc, vraiment, une première question, qu'est-ce que tu penses en termes d'innovation sur l'expérience utilisateur, selon toi, vers quoi on devrait tendre? Et une autre question, et ça, elle est plutôt liée à l'actualité récente, c'est, voilà, je veux bien tes pensées là-dessus. Il y a un gros conflit à l'est de l'Europe. Est-ce que, voilà, ça peut impacter aussi la production, en fait, de batteries en Europe? Voilà, comment est-ce que l'industrie, en fait, va être impactée, selon toi, sur l'année 2022?
Alors oui, elle peut être impactée parce qu'en général, tout n'est pas construit. Déjà, une batterie n'est pas faite à un seul endroit. Il y a plusieurs usines à différents lieux dans le monde, mais aussi au niveau européen. Par exemple, aussi, les Américains sont gros acteurs dans tout ce qui est batterie, etc. Avec Tesla, tout ça, ça a poussé aussi à le développement de l'électrique. Donc oui, il y a un conflit qui est d'ordre aujourd'hui, même si ça se passe en Europe de l'Est, c'est un conflit d'ordre mondial. Peut tout à fait changer là. Mais ça peut prendre du retard, on l'a pu le voir avec le Covid, etc. Ça peut prendre du retard au niveau de la construction, mais ça peut prendre du retard aussi au niveau de l'innovation. Voilà, oui, bien sûr, il y a des retombées et ça, c'est non négligeable et c'est à voir dans le temps. Mais par exemple, le Covid, qui était mondial aussi, on a pu voir que ça avait été, les retombées étaient sur plusieurs plans, quoi. Donc voilà, okay. Donc, l'innovation, surtout que des fois, ce sont des aides au niveau de l'Europe qui sont pour l'innovation de cette envergure-là. Donc oui, s'il y a un conflit sur le sol européen, ça peut être encore plus problématique pour l'Europe elle-même.
Ok, ça marche. Merci Manon d'avoir répondu à ces trois questions. Maintenant, je propose de prendre quelques questions de l'audience. Il y a Emmanuel qui s'interroge, est-ce que vous pourriez donner une indication sur la rentabilité d'une borne de recharge électrique ? Intéressant.
Alors, rentabilité dans déjà d'une borne électrique à domicile, je suppose, ce qu'il veut dire, pour bien être sûr.
Écoute, il n'a pas vraiment précisé, mais partons sur la borne de recharge à domicile et puis on pourra préciser au besoin après.
Alors, la rentabilité, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand c'est à domicile, comme je le disais, il y a des aides de l'État. Alors ça va dépendre de la borne que vous souhaitez, du type de recharge. Enfin, voilà, du coup, là, ça va être différent au niveau des prix. Si vous vous mettez avec votre entourage, vos voisins, etc., le prix, du coup, ça vous revient aussi moins cher. C'est votre propre électricité. Ça va être quand même moins cher que si c'est un acteur privé en ville. Et il y a également aujourd'hui, alors sans entrer dans les détails, le V2G, Vehicle to Grid. Et en fait, ça vous permet de recharger votre véhicule durant les heures creuses. Et aux heures pleines où, par exemple, votre maison a besoin d'énergie, au contraire, votre borne de recharge qui a stocké de l'énergie va le remettre au niveau de l'électroménager dans votre maison. Donc, du coup, ça veut dire que votre recharge, elle stocke de l'énergie et elle en donne. Donc, voilà. Donc, ça aussi, ce sont des choses qui sont en cours de développement dans l'innovation des bornes de recharge. Et ça va être quelque chose qui, financièrement, les utilisateurs vont s'y retrouver derrière.
C'est aussi une aide à la gestion en fait énergétique globale de son foyer finalement, donc c'est intéressant aussi d'aller au-delà. Michel, ça demande qu'est-ce que vous pensez de la recharge inductive statique et dynamique en zone urbaine. Je sais qu'on peut voir pas mal d'annonces sur ces sujets de recharge inductive. Voilà, c'est un sentiment là-dessus.
Ok. alors, je ne sais pas si je suis vraiment la mieux pour pouvoir répondre à ce type de questions. Je ne suis pas non plus dans tout ce qui est recherche, etc. Bon, non, je pense que j'aurais pas d'avis directement à donner là-dessus. Oui, et ça va dépendre du. Ça va dépendre.
Aucun problème, aucun problème. Ouais, c'est un sujet un peu nouveau qui arrive. Michel, voilà, on n'hésitera pas peut-être à poser la question à d'autres intervenants qui peut-être voilà, suivent le sujet aussi. On peut pas, il se passe tellement de choses, on ne peut pas être au courant de tout.
Oui, en plus, au
Christophe,
niveau de la stabilité technique, etc., la recharge dynamique sans contact, c'est quelque chose d'assez pointu où je n'ai pas envie de dire des bêtises, donc je préfère pas rentrer dans les
ça
détails.
marche, ça marche. Notre question de Christophe qui se demande, sais-tu comment les fabricants de bornes de recharge rapide voient l'avenir avec l'arrivée progressive des batteries commutées qui vont permettre aux véhicules électriques de se recharger directement sur les différentes puissances sans qu'il y ait besoin de chargeurs ou convertisseurs dans les bornes?
Alors, oula, elle était longue la question. Donc, avec l'arrivée progressive des batteries, commutées qui vont permettre aux véhicules de se recharger sur les différentes puissances et qui ont besoin de chaleur, tu sais. En général, ils sont assez souples et ils vont tout à fait réussir à se diriger et aller faire en sorte de se recharger directement selon les différentes puissances. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour l'instant, c'est des fast chargers. Ce sont des entreprises qui ont des potentiels énormes. Donc, même si à l'arrivée progressive des batteries commutées, là-dessus, ils se dirigeront vers ça. Il n'y a aucun souci. On peut voir déjà qu'ils sont passés du pétrole électrique très facilement. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de la recharge de différents types de batteries.
Ok, très bien. Notre question de Michel, cette fois-ci sur la question de l'interopérabilité des réseaux de recharge. Quelles mesures est-ce que t'as pu voir, qui ont pu être initiées, ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour assurer cette interopérabilité justement des réseaux de recharge?
Alors, il faudrait déjà, comme je le disais, une uniformité. Il faut que les différents acteurs discutent entre eux et puissent qu'il y ait peut-être des lois aussi pour réguler tout ça. Déjà, ça permettrait que ça soit plus facile et que ça faciliterait la vie et le quotidien à l'utilisateur. C'est le plus important. Et surtout qu'ils aient une politique et une dynamique de simplicité et de pas. Il y a un côté business, bien sûr, ce sont des acteurs privés pour la plupart qui sont derrière, et il faudrait vraiment qu'ils se dirigent plutôt vers tout ce qui est aussi penser à l'utilisateur et pas qu'au côté business pour pouvoir aller plus loin et pouvoir construire des meilleurs réseaux et des meilleures bornes de recharge.
Donc, il y a un sujet sur la gouvernance, sur le partage de la valeur, en effet. Enfin, voilà, il faudrait que pas mal de monde se mette autour de la table et d'accord, en fait, sur une façon de faire. C'est assez challenging. Et une dernière question de Baptiste qui voilà, s'interroge sur Viluzo. Combien il y a de scooters Viluzo en circulation?
Alors aujourd'hui, on est uniquement en France et il y en a à peu près 300 à 400 dans l'ensemble de la France. Voilà.
Ok, ça marche. Ouais, Baptiste, tu pourras aller sur le site de Viluzo si tu veux en savoir plus, je présume. Là, il y aura plus d'informations. Merci beaucoup, Manon, d'avoir accepté mon invitation et pour toutes tes analyses. Merci à tous d'avoir suivi ce talk. À tous, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, le mois de mars, c'est le jeudi matin, les Mobility Talks, avec Guillaume Le Sueur, qui est le directeur de EDF Pulse Ventures, leur entité de corporate venture du célèbre énergéticien français, voilà, qui pourra dresser aussi un panorama un peu plus au niveau global, voilà, de par leur périmètre d'activité. Ils ont une vision assez haute et aussi sur l'innovation en matière de recherche de VE. Merci encore Manon, merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne journée, puis je vous dis à la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.